Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
Alors, vous le savez, en ce moment, sur le Disney Channel, on peut voir ces documentaires faits à partir d'images d'archives absolument exceptionnelles de Peter Jackson, donc le film sur les Beatles. Marie-Claude Barrette l'a vu en partie et elle ne tarit pas d'éloges. Marie-Claude, j'ai pas encore commencé à le regarder. Je me garde ça pour la fin de semaine. Mais toi, tu capotes, comme on dit en bon québécois.
Ah oui. Écoute, je suis comme dans une zone de confort incroyable devant cette série-là. Ça me fait du bien et j'ai volontairement décidé de ne pas l'écouter en rafale parce que je veux que ça dure, je veux rester dans cet environnement-là. C'est quand même trois épisodes de 2 heures, c'est pratiquement 6 heures d'enregistrement. Mais c'est Peter Jackson qui a fait ça à partir de 60 heures d'images, 150 heures de son qui a été enregistré. Écoute, ça a commencé le 2 janvier 1969. Ils se sont donné le défi d'enregistrer 4 chansons et à la fin, ils faisaient une émission de télé. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé finalement, mais il reste que... On est en studio, ça commence, on est dans un hangar à Twickenham. Maintenant, c'est des grands studios de cinéma. C'est un grand hangar qu'ils ont fait pour l'occasion. Et ils commencent à pratiquer ensemble. Et on voit que, tu sais, ça fait quand même longtemps, ça fait 2-3 ans qu'ils n'ont pas fait de scène. On sent quand même qu'au début, ils sont plus lointains les uns des autres. Et on voit tout. Et on apprenait il y a quelques jours que Disney, dès le départ, avait dit à Peter Jackson, comme c'est Disney, on a des règles, donc il n'y aura pas de jurons.
Ben
de
oui, j'ai vu ça. Voyons
et
donc.
Il n'y aura pas de cigarettes et de cigares.
Ben écoute.
On est en 1969. Bon, d'abord, il y aura encore des jurons autant que ça aujourd'hui, sinon plus. Et finalement, les quatre, tu sais, la femme de George, Yoko, Ringo et Paul ont dit non. Nous, on était comme ça, on ne peut pas dénaturer qui on était à l'époque.
Mais Marie-Claude, oui, ils ont tenu leur bout, puis heureusement, mais qu'est-ce que ça dit quand même sur notre époque? Écoute, on a accès à des images. C'est hallucinant. Écoute, c'est rendu qu'on n'a plus le droit de fumer sur les scènes de théâtre. Puis en plus, on voudrait censurer la cigarette des Beatles, alors que c'est un témoignage. C'est comme si on disait, on va prendre un tableau d'un grand maître puis on va en enlever des petits bouts parce que ça ne correspond pas à l'époque. Je trouve ça épouvantable.
Ben, oui.
Puis heureusement que les Beatles se sont tenus debout. T'imagines, on serait allé enlever tout. J'imagine que les gros mots qu'ils disent, ça doit être une coupe de fuck ou de goddammit, puis tout ça. Là,
parce
bon.
ils se parlent entre eux. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Et imagine, t'sais, pour te rassurer, dès le départ, il y a quand même un avertissement qu'il y a des gens qui fument dans le documentaire.
Voyons donc.
On est bien préparé à voir de la fumée, mais en même temps, c'est assez impressionnant de voir comment c'était en 69. Justement, il y a tout le temps quelqu'un qui fume un cigare ou une cigarette, mais c'est constant. Il en éteigne une, il en allume une. Et aussi, il n'y a pas d'écran. Tu comprends? Ils sont, dès qu'ils arrêtent là, ils sont pas en train de texter, ils sont pas en train de prendre des photos sans arrêt. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Et tu sais, écoute, ça fait toute une différence, sont entre eux. Et moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est de les voir au début, et là, tu as Yoko Ono. Écoute, je peux pas te dire comment elle me fatigue là-dedans.
Ah,
mais
écoute,
ça,
c'est drôle que tu parles de ça, Marie-Claude, parce que j'avais même écrit une chronique à l'époque quand on avait su que Peter Jackson faisait cette émission-là, ce reportage-là. Il y avait eu comme un mini-montage. On avait quelques images, puis tout ça. Écoute, il n'y a pas une seule maudite image où il n'y avait pas Yoko, toujours, puis elle était vraiment, tu sais, la notion de bulle, tu sais, on a toute une bulle autour de nous, puis là, elle était constamment dans la bulle de John, mais aussi dans la bulle de Paul, des autres, tu sais, les Beatles, c'est pas 4 plus 1, c'est 4.
Mais elle est toujours là.
C'est et agaçant.
Elle ne parle, le seul moment où on entend sa voix, c'est quand elle se met à délirer sur... elle commence à faire de la musique psychédélique et elle se met à crier dans un micro. À deux reprises, on entend ça. Donc, c'est le moment où on l'entend. Mais à un moment donné, il y a une discussion parce que John n'est pas arrivé. Et là, bon, ils discutent ensemble. Il y a une chicane avec George. George n'est pas là. Donc, il y a juste Ringo, Paul, évidemment, tout leur entourage. Et Paul dit, ils se mettent à parler de Yoko, tu sais, parce qu'ils disent, écoute, c'est quand même quelque chose. Elle est tout le temps là. Puis là, Paul, il dit, tu sais, on se voit plus comme avant. Tu sais, notre relation a changé. Mais il dit, en même temps, John a besoin d'elle. Si on enlève Yoko, on va perdre John.
Ah oui, c'était vraiment un couple fusionnel. Tu sais, mettons, Louise Sigouin, là, de l'émission Si on s'aimait.
Oui.
Elle regarderait ça, puis ça y prendrait 3 secondes, puis elle dirait couple fusionnel. On se souvient tous de cette fameuse photo d'Annie Leibovitz où ils sont tous les deux nus et elle est vraiment là, elle est par-dessus John. Elle quasiment en train de l'étouffer là. Moi je l'aime pas beaucoup Yoko, non. Là.
Ben c'est-à-dire que ça ne la rend pas attachante parce que comme elle n'a aucun contact, tu sais, puis même visuellement aux yeux, puis elle est tout le temps là. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, mais j'ai pas une petite journée de repos parce que ça dure pendant des, tu sais, ça dure des jours. Tu sais, on voit Linda, la blonde de Paul à l'époque, qui est devenue sa femme, mais bon, ben elle, tu sais, on la voit une fois de temps en temps. Tu sais, on voit les autres conjointes, mais elle, bon, elle est tout le temps là. Ça, c'est sûr que ça devient très omniprésent. Mais moi, là, ce que je veux dire, c'est que on voit l'évolution, tu sais, les 4 gars se retrouvent et on les voit, tu sais, ils font get back, là, ils pratiquent, ils partent de rien, ils font les accords, ils essaient de trouver des paroles, on voit toute l'évolution. Écoute, et on voit aussi à quel point ils se rapprochent au fil du temps, à quel point à un moment donné, John et Paul ont du plaisir ensemble. Puis à l'époque, on disait que tout ça avait été mal, qu'il y avait eu des chicanes, mais quand on voit ça, c'est pas ça qu'on voit. Écoute, il y a vraiment une connexion et que dire de la qualité des musiciens qui sont...
Hallucinant, ouais.
T'sais, les musiciens d'aujourd'hui qui regardent ça, je suis sûre qu'ils voudraient avoir ce luxe-là d'être plusieurs jours en studio, puis c'est eux qui mènent le bal. T'sais, ils ont bien beau avoir plein de gens autour, un réalisateur, un producteur. Tu vois que ces 4 gars-là ont commencé, John et Paul se connaissent depuis toujours, ils ont 27 ans à l'époque. Là, ils se connaissent depuis toujours et tu vois que ça se passe entre eux et il y a des moments de tension. Peter Jackson a eu cette intelligence de garder tout ça. Et tu sais, à un moment donné, George Harrison ne revient pas à l'enregistrement. Puis là, ben là, ils ont un stress et finalement, ils vont le convaincre de revenir. Mais on nous a pas caché ça et on voit aussi à quel point Paul est magnifique. Bon, là, il faut que je le dise, moi, j'ai eu un crâne pour Paul.
Mais moi, je l'ai encore. Marie-Claude, il vieillit-tu bien, Paul McCartney? C'est hallucinant. Moi, je l'ai toujours dit à Geneviève Borne, j'étais super jalouse parce qu'elle l'a interviewé à quelques reprises. Paul McCartney, moi, c'est un des... Mais écoute, il y a mon mari, là, puis après... Bon, OK, après, il y a George Clooney, puis après, il y a Paul McCartney, là. Vraiment méchant pétard, Paul, puis il vieillit bien. C'est parce qu'il est végétarien, je pense.
Ah oui, peut-être c'est ça, Sophie. Mais en 69, là, écoute, moi, j'en revenais pas à quel point aussi il tenait le groupe. Tu sais, écoute, c'était pas facile. Je pense que sans lui, ça aurait terminé cet enregistrement-là après 3-4 jours parce qu'il les faisait travailler, il leur demandait d'essayer d'arriver le lendemain avec des compositions qu'ils allaient regarder ensemble. Et t'as Ringo qui, lui, suit le groupe, Ringo qui est pas... en tout cas, moi, tu vois, j'en revenais... Tu sais, ce gars-là ne fait pas de trouble. En tout cas, lui,
il est
calme, il suit le groupe, il est discret. C'est que c'est très beau de voir la chimie. Et quand ils déménagent à un moment donné, ils demandent d'aller en studio, ils vont dans leur studio à Apple qui est pas prêt du tout. Écoute, là, ils ont de la vie. Le réalisateur réussit à faire son 8 tracks, mais c'est plein de fils, c'est le bordel dans le studio. On les voit fumer. On peut imaginer que ça sent la cigarette. À un moment donné, ils disaient, est-ce qu'on peut avoir des ventilateurs? Là, on voit qu'ils ont chaud. Alors, on peut imaginer l'atmosphère dans ce studio-là. Et là, ils commencent à avoir du plaisir. Et moi, je suis rendue, j'ai presque fini le deuxième, et je me dis, là, je vais commencer le dernier, puis... Mais il me semble que je suis bien dans cet environnement-là parce qu'on assiste, tu sais, on est vraiment on a l'impression d'être dans un coin, assis sur une chaise et avoir le droit d'assister à quelque chose.
Comme une mouche sur le mur, comme un petit oiseau. Et c'est assez particulier. Il y a un humoriste québécois, puis là, évidemment, je me souviendrai plus c'est lequel. Je sais pas si c'est Mario Tessier. En tout cas, il y a un humoriste québécois qui a écrit sur les médias sociaux, qui avait commencé à regarder la série, puis qui dit, j'en reviens pas, on les voit, les Beatles, là, puis ils sont là en train de travailler, puis d'essayer de trouver des textes. Mais il disait, des chansons, je les connais par cœur. Comment ça se fait que c'est si compliqué pour eux de trouver ces mots-là? Je trouvais ça assez rigolo. Ben, parce que c'était ironique, évidemment, mais tu sais, aujourd'hui, c'est des chansons que tout le monde est capable de fredonner. Tu sais, on connaît les paroles, mais c'est aussi la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que c'est un hommage à tout le travail qu'il y a derrière ça. Et c'est pour ça que quand tu dis, c'est le fun à regarder parce qu'on les voit fumer, alors qu'aujourd'hui, bon, il y a toute la police de la cigarette, on voit la vie sans les écrans, mais c'est aussi toute la notion de travail acharné. C'est important qu'on voit ce processus-là de création, là.
Et de plaisir dans la création. Puis je me disais, plusieurs groupes, plusieurs musiciens, quand tu regardes ça, doivent dire, ah, faut revenir à ça, faut revenir à quelque chose de où on prend le temps. Si on n'est pas dans quelqu'un qui fait la guitare dans un studio, quelqu'un qui fait la voix dans un autre, et tu sais, et on ramène ça souvent, ça se fait comme ça. On n'est pas toujours tout dans le même studio, et là de voir, et tu sais, même eux, c'était exceptionnel aussi là pour les Beatles. C'est un grand projet pour eux qui a duré plus longtemps, et ça se termine parce que là ils veulent finir avec un spectacle. Au début, c'est une émission de télé. Finalement, les gars tirent sur la plug de ça. Il y a trop de pression, ça leur tente pas, mais ils veulent faire un spectacle. Là, à un moment donné, ils pensent partir en Libye, à l'Agora de Sabata, amener les gens-là en bateau. En tout cas, là, finalement, écoute, là t'as Ringo qui a l'air à dire « Ah non, mais c'est parce que moi, j'ai deux enfants, ma femme est enceinte, là, on va-tu vraiment faire ça? » Lui, là, il est bien découragé. Et finalement, il décide de faire ça sur un toit à Londres, le toit de leur studio où ils enregistrent.
Classique.
Et après... Et finalement, tu sais, devait faire plusieurs tunes. Finalement, je pense que c'est entre la troisième et la quatrième, les policiers débranchent les amplis. Et ce sera le dernier concert des Beatles. Ce sera celui-là. Alors, c'est à quelque chose de mythique. Et moi, en tout cas, sur Disney+, moi, je le conseille à tout le monde parce que c'est une image aussi des années 1969. C'est un groupe qui a marqué l'histoire de la musique.
Puis une liberté, c'est ça, ce que tu nous décris, Marie-Claude, c'est ça aussi, là. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde ça avec le recul, on se dit, mon Dieu, c'était une période d'expérimentation, une période de liberté, pas juste de liberté physique, mais de liberté entre les deux oreilles, où les gens pouvaient se permettre de... Tu sais, il n'y avait pas des petits curés qui nous disaient « tel mot, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, puis telle affaire, vous n'avez pas le droit de faire ça. » C'est ça aussi, cette époque-là, les années 60, puis en particulier Swinging London, là, c'était assez croquignol. Là. Le party était pogné dans ces années-là.
Et tu sais, j'écoutais Charlotte Cardin quand elle a lancé son dernier album. Elle racontait qu'au début, tu sais, il fallait qu'elle sorte un album, puis elle était chez elle, puis elle essayait de composer. Et finalement, le producteur lui a dit, ben garde, on, avec qui tu veux travailler, on s'en va en studio. Et tu sais, son dernier album, il est incroyable là, qu'elle a sorti.
Oui,
et ça s'est fait. Tu sais, quand je pensais à elle, quand elle disait, ben tu sais, finalement, on était tous ensemble, puis on a créé ensemble, puis on faisait les harmonies ensemble. Et tu sais, c'est probablement à petite échelle, mais ça ressemble à ce qu'ils ont fait. Fait que je te dis, là, c'est sûr que moi, j'ai hâte de réécouter la musique des Beatles, que j'ai toujours aimé. Moi, mon père écoutait ça, tu sais, je veux dire, j'ai grandi avec cette musique. J'ai comme l'impression que je vais l'écouter différemment, parce que, comme tu dis, de voir le travail et le... Plus qu'ils travaillent ensemble, plus qu'on sent quand même qu'il y a une énergie positive. Et de voir John heureux, écoute, il est vraiment heureux. Plus ça va, plus il est gamin, tu sais, il fait des blagues, il a envie de jouer, il a envie de s'amuser. Paul est un peu plus cérébral parce que lui, il pense à l'avenir du groupe. Mais quand même, écoute, c'est un compositeur incroyable. Alors, moi, je vis quelque chose. Puis ça, je vais le finir en fin de semaine. Puis ça me fait de la peine, là, quasiment, de savoir que je vais le terminer. Mais en même temps, là, je vais vouloir voir le concert final. Là. C'est sûr que
tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer du beau Paul. Fait qu'écoute, je pourrais partir une chicane en te demandant si, pour toi, le plus grand groupe qui a jamais été sur Terre, c'est les Beatles ou les Rolling Stones?
Ben, Pour moi, ce serait les Beatles. Bon, si je d'accord. Beaucoup plus
je t'aime.
Les Beatles
que... Je t'aime. Parce qu'avec, à la maison, moi, avec M. Martineau, lui, il préfère les Rolling Stones. Et quand on lui parle des Beatles, il dit « Ah, Obladi, Oblada ». Ben, c'est pas juste Obladi, Oblada, là, les Beatles, là. Non, non, mais non. Il taquine, il taquine. Il dit ça juste pour me faire choquer.
T'as fait choquer, mais c'est deux groupes qui ont marqué l'histoire de la musique, tu sais, ça c'est clair aussi.
Marie-Claude, il nous reste très peu de temps, mais tu voulais absolument revenir. On change complètement de registre, évidemment, puis les gens vont comprendre qu'on n'est pas du tout en train de banaliser ou de minimiser ça. Mais tu voulais revenir brièvement sur la décision du gouvernement du Québec mercredi qui a décidé d'aller de l'avant avec le fameux bracelet là, anti-rapprochement pour protéger les victimes de violences conjugales.
Ah ouais, ben. Oui, je voulais saluer ce geste-là. Je voulais saluer cette décision-là quand même qui va coûter des millions de dollars, mais combien importante. Parce que ceux qui ont déjà été accusés ou on sait qu'ils sont dans, sont violents, des ex-conjoints de femmes qui ont été violentées et qui seraient encore menacées, évidemment, il y a un processus pour savoir qui devra porter ces bracelets-là, mais ils auront un bracelet à la cheville et la victime aura aussi... un bracelet ou en fait un autre objet qui va pouvoir savoir où elle est, une forme de GPS. Et dès qu'on va sentir que ces deux personnes-là se rapprochent, parce qu'on sait que les personnes qui auront le bracelet auront des zones à ne pas, ils ne devront pas se rapprocher de la victime.
Une zone d'alerte.
Dès qu'ils vont, exactement. Il va y avoir une première zone où on va le contacter pour savoir ce qui se passe. Et il y a une deuxième zone où tout de suite, il y a une intervention qui va se faire. Et pour les victimes, je pense que c'est de leur amener de la sécurité, de leur amener de la paix, d'arrêter d'avoir peur de sortir de chez elles. Alors, moi, je trouve que faut avoir plusieurs outils pour vaincre la violence puis réduire les féminicides. En fait, on veut éliminer complètement les féminicides. Et ça, pour moi, c'est un outil de plus. C'est un outil qui est important. Puis ça devrait être mis en place là, déjà dès le printemps 2022. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des victimes qui regardent ça passer, qui doivent avoir un grand respire de soulagement avec cette nouvelle mesure qui sera en application.
Et avoir très hâte au printemps parce que il y en a plusieurs femmes victimes de violences conjugales qui disent à quel point ça aurait pu les aider, à quel point on aurait pu justement éviter des confrontations avec leur bourreau ou avec le prédateur et que à ce moment-là on a très hâte que ça arrive et qu'on puisse enfin contrôler en tout cas en partie ce fléau. Merci beaucoup Marie-Claude. Bon vendredi et puis on se retrouve lundi. Merci beaucoup.
Merci, bon week-end, bye bye.